les midi 15 sur le 94 FM, vous allez écouter 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Nous entamons aujourd'hui notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculture est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Manon, soyez les bienvenus en ce lundi midi dans 3 en 1 sur Canal B. 3 en 1, c'est l'émission d'information locale que vous retrouvez deux fois par semaine, le lundi et mercredi de midi 15 à midi 45, et en rediffusion les mardis et jeudis à 8h15. Et au sommaire de cette émission du lundi 15 décembre, Nina a interrogé Pierre, militant pour la CGT Éducation 35, au sujet des programmes EVARS, les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, qui ont notamment pour objectif de lutter contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Puis en fin d'émission, nous partirons avec Manuel Peureux sur le campus de Beaulieu pour rencontrer des bénévoles de l'épicerie gratuite de l'université Rennes 1 Épifrie. Ils nous parleront du rôle de ces associations face à une précarité étudiante grandissante. Et pour commencer cette émission, place à l'info du jour. Salut Julie !
Salut Manon !
Alors c'est qui nous prend pour des connes aujourd'hui ?
Petit indice, c'est un homme de petite taille qui se joue des finances publiques.
Nicolas Sarkozy ?
Et non, je vous parle bien de notre cher exilé national Florent Pagny. Et il a de grands projets pour la France. Comme il l'a dit vendredi dernier sur le plateau de Quotidien, s'il devait être président, il serait comme Milei.
Comme Javier Milei, le président ultra-libéral de l'Argentine qui a licencié des milliers de fonctionnaires depuis le début de son mandat et supprimé la moitié des ministères, dans un pays où plus de 30% des citoyens vivent sous le seuil de pauvreté, pendant que les ultra-riches profitent du système.
Comme Florent Pagny, qui s'exile en Argentine pour ne pas payer d'impôts en France, mais qui y revient pour soigner son cancer.
Marrant qu'un ultra-riche profite du système. Généralement, c'est pas eux qu'on prend du doigt.
Et finalement, en fait, ce qui me marque le plus dans cette séquence, c'est aussi le manque de répartie d'Yann Barthès face au culot de Florent Pagny. Il le laisse simplement continuer sans apporter de contradiction, tellement choqué par les propos du chanteur qu'il en oublie sa propre responsabilité journalistique.
Vous venez d'écouter Comme Trug de Spinvis sur Canal B. Et tout de suite, Nina prend le relais pour l'interview du jour.
Nous allons parler d'éducation sexuelle maintenant. Il y a quelques jours, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français pour avoir manqué à son obligation d'organiser les séances d'information et d'éducation à la sexualité prévues par la loi. Pourtant préconisée par la CIVISE, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, mais aussi par l'UNESCO depuis plusieurs années comme un moyen de réduire les violences faites aux enfants, des associations œuvrent en France contre la mise en place des programmes EVAR ou EVARS, donc les programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Qui de mieux pour en parler aujourd'hui avec nous qu'un directeur d'école publique, lui-même engagé sur ces questions ? Pierre, vous êtes également militant à la CGT Éducation 35, la branche Ille-et-Vilaine de la CGT, qui concerne l'éducation nationale. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes. Et à toutes les auditrices.
Alors avant de se lancer dans notre interview, on va préciser que vous êtes en ce moment attaqué en diffamation par une de ces associations nommée SOS Éducation pour avoir interrompu avec d'autres syndicats une de leurs réunions publiques. Aujourd'hui, on ne va pas parler de votre cas précisément parce que vous en avez déjà parlé à cette antenne dans l'excellente émission Frisson diffusée le 28 novembre dernier. Et j'invite nos auditeurs et auditrices à aller la réécouter, elle est sur canalb.fr. Aujourd'hui, si on vous a invité, c'est pour faire un point sur ces associations comme SOS Éducation qui sont ouvertement contre la mise en place des programmes d'éducation sexuelle dans les établissements scolaires en France. Il suffit d'aller sur leur site ou leurs réseaux sociaux pour s'en rendre compte. On va donc en parler avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais que l'on reparte du début, à savoir de quoi parle-t-on lorsque l'on parle des programmes EVAR ou EVARS. En deux mots, quelle forme cela prend aujourd'hui en France dans les établissements scolaires ?
Disons que depuis quelques années, alors ça remonte quand même à une quinzaine d'années, il y a eu tout un travail dans l'éducation nationale sur l'égalité filles-garçons, sur la vie affective, la sexualité, etc. C'était les ABCD de l'égalité, etc. Et ça a débouché sur un vrai programme mis en place depuis la rentrée par l'éducation nationale. Donc l'EVAR dans le premier, l'EVARS dans le second degré. Hein, on rajoute la sexualité dans le second degré. Justement, donc en gros, c'est... On part d'un constat qu'on vit dans une société patriarcale, dans une société où il y a des violences sexistes, sexuelles, des violences sexuelles sur les enfants. L'actualité nous l'a bien montré il y a encore quelques semaines. Et en fait, l'objectif des programmes, tous les syndicats défendent, hein, on est même content que ces programmes existent, ils sont assez simples, hein, c'est apprendre à se connaître, améliorer le bien-être et encourager les élèves à s'exprimer, permettre des choix responsables, respecter les autres et vivre ensemble grâce au respect et à l'empathie, et prévenir les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est quand même des choses qui devraient, pour nous, être partagées par toute la société pour faire qu'il n'y ait pas 160 000 enfants qui subissent des violences sexuelles en France, comme montrent les études sociologiques.
Alors on va parler des moyens qui sont effectivement mis en place et donnés par l'État pour appliquer ces programmes, mais théoriquement, dans la loi, c'est combien de cours et de séances par an pour les enfants, par exemple, dans le primaire ?
Donc les programmes, c'est en fait, c'est des questions à aborder, et minimum 3 heures par de mémoire, hein, 3 heures par semaine, 3 heures par an, tous les ans à partir de la toute petite section, quoi, hein. Donc voilà, c'est ça, avec évidemment un programme qui va crescendo selon les problématiques, selon les âges. On ne parle pas de la prévention du corps, par exemple du respect du corps, du respect de l'intimité, de la même manière à des élèves de 3 ans que des élèves de 10-11 ans qui sont déjà dans la prépubère, quoi.
Alors en face, on a des associations qui sont ouvertement contre la mise en place de ces programmes. Il y a Maman Louve, par exemple, qui demande, je cite, l'arrêt immédiat des séances d'éducation sexuelle jusqu'à la quatrième, donc c'est clair et net. Mais aussi l'AFC, par exemple, c'est les associations familiales catholiques. Il y a aussi Parents Vigilants, SOS Éducation. Depuis votre position, vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces associations? Comment elles agissent aujourd'hui en France?
Nous, on est très, très inquiets, en fait, hein, parce que ça va avec la montée de l'extrême droite dans la société. Et clairement, tous ces groupes, toutes ces associations, tous ces groupements de quelques parents d'élèves, parce que c'est pas beaucoup en fait, hein, essayent de créer une panique morale en fait dans la société. J'ai un exemple là, par exemple SOS Éducation qui sort un visuel mais totalement dégueulasse. Hein, j'ai pas d'autres mots en fait où on voit une petite fille blonde aux yeux bleus qui dit à 10 ans apprenez-moi la division, pas l'éjaculation. Mais enfin c'est complètement hors propos en fait, parce que c'est pas du tout ce qu'on fait dans nos classes, quoi, hein, évidemment. Donc ces associations là mènent une guerre idéologique parce que en fait ce qu'ils veulent, c'est le maintien de la société patriarcale, quoi, entre autres dans leur projet de société.
Donc si je reformule, le principal reproche que vous faites à la CGT, mais qu'on peut faire globalement en tant que société à ces associations, c'est qu'elles désinforment, qu'elles font beaucoup de désinformation, ou en tout cas qu'elles propagent des informations qui ne sont pas vérifiées, vérifiables. Est-ce que vous avez des exemples précis pour les gens peut-être qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas familiers de ces questions-là d'éducation sexuelle, d'autres désinformations que ces associations peuvent faire quotidiennement ?
Ouais, ça va être... Il y a de multiples exemples, y compris sur notre département, hein, et qui mettent les personnels des écoles, des lycées, des collèges en difficulté, et voire ça se traduit par des menaces, y compris des menaces de mort sur des profs. Hein, tout ça, c'est pas une des associations qui ferait juste un tweet, quoi.
C'est-à-dire des menaces parce que ces professeurs-là ont délivré un programme d'éducation à la vie sexuelle et affective.
Ouais, où on fait lire des livres, où on montrait des spectacles. J'ai en tête là une école où il y a eu une intervention du groupe Parents Vigilants. Donc Parents Vigilants, c'est un truc créé par Reconquête, hein, le parti d'Éric Zemmour. Hein, voilà, ça donne le positionnement politique et qui dénonce le fait qu'il y ait eu un spectacle pour les enfants sur l'égalité filles-garçons qui questionnait seulement la question du genre. Est-ce que on est forcément que fille ? Est-ce qu'on est forcément que garçon ? Est-ce qu'on peut changer de genre, etc. Enfin, tous les débats dans la société actuelle qui sont tous plus légitimes, parce que des élèves qui s'interrogent sur leur genre, y compris depuis le plus jeune âge, on en a dans nos classes. Donc comment on traite cette question-là ?
Quels sont les moyens que ces associations elles ont à leur disposition ? Est-ce que ce sont des moyens financiers ? Est-ce que c'est du temps pour aller voir les parents individuellement et puis essayer de les convaincre ? Est-ce que c'est, je sais pas, des réseaux sociaux très percutants ? Qu'est-ce que c'est selon vous ?
Ces groupes sont assez puissants, voilà. Puissants financièrement, puissants dans la sphère médiatique notamment. Ils ne sont pas si puissants dans la réalité de nombre de militants sur le terrain, etc. Déjà, il faut savoir que tous ces groupes-là profitent de l'espèce d'écosystème de la fachosphère ou des médias d'extrême droite. Bon, par exemple, tu as rappelé que j'ai été mis en diffamation par SOS Éducation. L'ancienne porte-parole de SOS Éducation, par exemple aujourd'hui, à micro ouvert sur Europe 1, voilà, va régulièrement sur CNews. Ils ont des moyens financiers, ça on l'a découvert avec le procès aussi. SOS Éducation a de très nombreux donateurs, ça se chiffre quand même en millions d'euros, hein, les dons qu'ils ont eus pour faire des campagnes sur les réseaux sociaux, quoi. Hein.
Ils ont été en tout cas épinglés par la Cour des comptes ou le fisc sur des affaires financières également.
En tout cas, visiblement, la Cour des comptes a mis le nez dans leur compte et ils doivent, je crois que c'est 1,3 million d'euros de mémoire. Parce que pour des histoires de défiscalisation où ils n'avaient pas le droit.
Namika et Sexy Sushi en collab sur le titre Girlfriend sur Canal B. Et on retrouve Nina pour la deuxième partie de son interview avec Pierre.
On a rappelé un petit peu le constat. Qu'est-ce qu'il est important de faire à vos yeux ? Est-ce que la priorité, c'est d'outiller les professeurs ? Est-ce que la priorité, c'est d'outiller les parents pour que peut-être la minorité de parents qui est sensible à ces sujets-là et à la manière dont SOS Éducation va les trouver soit un peu plus outillée ? C'est quoi la priorité pour vous ?
Alors, il y aurait deux priorités. Hein. La première, c'est débunker, comme on dit aujourd'hui, les fake news de la fachosphère. Donc, expliquer aux parents, et ça, je veux dire, c'est le travail des enseignants tous les jours, hein, d'être au contact avec les parents pour leur dire, mais non, regardez, il y a des programmes, c'est des programmes de l'éducation nationale, c'est des programmes, enfin, s'appuyer sur les programmes qui, je le répète, ont été salués par toutes les organisations syndicales. Donc, ça, on le fait tous les jours. On peut avoir des questions légitimes, ça, il n'y a pas de souci. N'importe quel parent peut venir dans mon bureau en disant, on ne comprend pas les nouveaux programmes, on va expliquer, on va être pédagogue au niveau des parents. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait tous les jours en tant qu'enseignant ou en tant que directeur ou directrice. Et puis la deuxième chose, et là, par contre, on a clairement un manque, c'est former les enseignants à cette question. Et là, on a beau avoir des beaux programmes sur le papier, nous, ce qu'on dit aujourd'hui en tant que syndicat, c'est qu'il n'y a aucun élan donné par l'éducation nationale pour étudier ces programmes, se les approprier et faire qu'ils soient réellement mis en place dans les écoles. C'est-à-dire qu'on a des belles pages internet, etc. Mais c'est débrouillez-vous avec et ça, c'est juste pas possible.
C'est ce que vous dites sur le site de la CGT Éducation 35. Il y a un document de 4 pages qui rappelle en gros la situation sur ces sujets et qu'il y a un manque de moyens que vous déplorez. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous avez en gros des programmes, des fiches, des feuilles, des sujets, mais les professeurs ne se sentent pas assez à l'aise pour les déployer en classe, notamment parce qu'ils savent qu'ils peuvent être attendus au tournant par certains parents.
Je pense pas que ce soit forcément une peur des parents, parce que comme je le dis, ça se passe bien avec 90 ou 95% des parents, mais c'est juste, il faut prendre en charge ces questions. Alors nous, par exemple, en tant que syndicalistes, l'égalité, enfin la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'égalité homme-femme, c'est des choses sur lesquelles on est en tant que syndicaliste formé, mais comme syndicaliste, mais comme pédagogue, on n'est pas formé. Je vais donner un exemple. On a proposé, les enseignants du premier degré doivent tous faire 18 heures de formation chaque année. C'est une obligation légale. Cette année, il y a 0 heure de formation proposée par l'académie pour former les professeurs du premier degré aux EVAR et aux EVARS. Et c'est vrai qu'il y a des professeurs qui s'interrogent, encore une fois, pas par peur des parents, mais comment on parle, par exemple, du respect du corps et tout ça, des enfants de 3 ans, de 4 ans, tout ça, c'est des questions qui sont légitimes. Voilà, 0 heure de formation au programme de formation des professeurs des écoles sur les VAR au premier degré dans le département.
Alors, je le disais en introduction, l'État français, il vient tout juste de se faire condamner hein, pour avoir manqué justement à son obligation d'organiser des séances d'information et d'éducation à la sexualité prévues par la loi. C'est une victoire en demi-teinte pour les 3 assos qui ont attaqué l'État, à savoir c'était le planning familial, SOS Homophobie et Site Action, parce que même si cette décision a été rendue, le tribunal n'a pas à refuser de contraindre l'État à appliquer pleinement la loi. Je vous réfère au communiqué de presse qui a été fait par ces associations-là. Sur ce document-là de 4 pages dont on parlait à l'instant, publié par la CGT Éducation 35, vous parlez aussi, enfin je vais citer une partie de ce document, vous dites « Les manquements de l'institution permettent à des start-up de s'infiltrer dans la brèche et de marchandiser ce secteur alors que des associations reconnues et agréées existent. » Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce passage ?
Ouais, ben en fait... Justement, comme il y a un manque de formation, tout de suite le privé, enfin le secteur privé s'empare pour en faire du profit. Nous, c'est pas du tout notre conception ni de la pédagogie ni de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On pense qu'il y a des associations qui sont historiques en France et qui luttent contre toutes ces violences, etc. Par exemple, le planning familial, avec qui, par exemple, on a organisé l'action, co-organisé l'action contre SOS Éducation en février 2024. On pense que ces associations-là, elles sont bien mieux placées parce que ce sont des associations qui ont l'expertise, parce que ce sont des associations qui ont réfléchi au sujet pour intervenir dans les classes, etc. Par ailleurs, sur les VAR, dans le premier degré en tout cas, il y a quand même un scandale, c'est qu'on nous a interdit de faire intervenir ces associations en classe, même comme partenaires. C'est-à-dire que moi, sur mon école, il y a encore quelques années, j'avais, quand on faisait l'éducation à la sexualité en CM2, je faisais venir des gens du planning familial pour faire des groupes de parole non mixtes, pour que les gens puissent, pour que les jeunes puissent exprimer leurs questions et leurs interrogations, ce qui nous a permis de découvrir des violences sexistes dans l'école et notamment l'accès à la pornographie par des élèves en CM2, par exemple, hein, il y a quelques années. Et ben aujourd'hui, ça, c'est interdit. Bon, ça c'est quelque chose qu'on pense qu'on pourrait très bien avoir une liste d'associations agréées qui pourraient venir épauler les enseignants sur cette question.
Du coup, si je comprends bien, d'un côté, il y a un manque de moyens pour que les professeurs se forment correctement. Et d'un autre côté, vous avez été interdit donc, de faire entrer ces associations-là dans les écoles. C'était un peu ma prochaine question sur laquelle vous avez un peu pris de l'avance. D'un côté, vous déplorez ce manque de moyens et vous proposez que des actions soient prises en charge donc, par des assos qui sont reconnus, en tout cas dont l'expertise, comme vous venez de nous le dire, est historique. En même temps, vous dénoncez l'investissement d'autres associations comme SOS Éducation, dont on a parlé en début d'interview. Alors là, je me fais un peu l'avocate du diable, mais collectivement, en tant que société, comment on se met d'accord sur les personnes légitimes et reconnues pour intervenir auprès des élèves et quel organe peut en attester ?
Je pense que c'est à l'éducation nationale. Il y a déjà une série d'associations qui sont agréées éducation nationale, qui ont le droit d'intervenir dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles. Évidemment, une association comme SOS Éducation qui combat les programmes ne peut pas intervenir pour mettre en place ces programmes. Quand je dis qu'ils interviennent, c'est pas faire à la place des profs. Ça, c'est très important pour nous, c'est co-construire avec les profs, parce qu'eux ont une expertise, mais faire que ce soit pris en charge par les professeurs, parce qu'on en finira notamment avec les violences sexistes et sexuelles sur les enfants, mais dans la société, et plus largement contre le patriarcat, contre la société patriarcale, en faisant qu'on forme les gens, donc y compris les professeurs.
Il y a un autre sujet aussi sur lequel j'ai l'impression que SOS Éducation et ses associations surfent un petit peu, c'est qu'elles revendiquent à chaque fois le droit des parents à s'immiscer, ou en tout cas avoir leur mot à dire dans ces programmes d'éducation sexuelle, sous prétexte que c'est un thème qui relève de l'intimité de leurs enfants. Vous, en tant que directeur d'école et également du coup professeur, comment vous répondez à ces revendications ?
Non, mais les parents sont les premiers éducateurs des enfants, il n'y a pas de souci. Mais l'éducation nationale, elle a un rôle. Part d'un constat dans la société, c'est celui que j'ai rappelé, qu'il y a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles en France actuellement. On a une société où les égalités hommes-femmes-femmes-hommes sont toujours aussi grandes. 20% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc l'école, elle a toute légitimité, c'est l'État qui le décide en fait, hein, et là-dessus on est d'accord. L'État a toute légitimité à prendre en charge cette question pour que, par exemple, ces violences reculent dans la société. Parce que ça, c'est un coût pour la société, hein, à tous les niveaux. Et donc, il faut l'expliquer aux parents. Il ne s'agit pas de prendre la place des parents. Hein, mais il y a des parents qui ne sont pas outillés non plus. Les premières violences contre les enfants se font dans le cadre familial. Donc si l'école n'est pas là pour dire à un enfant, tu sais, c'est pas normal que dans ta famille, tu sois touché, qu'on ne respecte pas ton corps, qu'on te fasse des choses que tu ne veux pas. Si c'est pas l'État qui le fait via l'école, qui le fera ?
Petite dernière question pour conclure cette interview. Vous avez des contacts, je veux dire, avec ces associations-là ? Est-ce que il y a un dialogue parfois qui est possible ou c'est juste de la confrontation pure et dure et aucun dialogue ?
Alors nous, à la CGT, on ne dialogue pas avec l'extrême droite, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est clair. On refuse d'aller sur CNews, on refuse de leur parler. L'action qu'on a faite, par exemple, à passer quand on est intervenu, vous avez dit qu'on a interrompu. En fait, l'idée n'était pas d'interrompre la réunion publique, mais elle est d'aller voir les gens qui vont dans ce genre de réunion pour dire « Attention, vous êtes dans une réunion menée par l'extrême droite qui va propager des fake news. » Et en fait, c'était ça notre but, et c'est ça qu'on a dit aux gens. Et on a été surpris, parce qu'on ne savait pas si on trouverait des gens... que des gens d'extrême droite, zémouristes, convaincus. Et en fait, non, on a trouvé des gens qui venaient pour s'informer en toute bonne foi. Donc, c'est très important de continuer le combat contre l'extrême droite et contre les tentatives d'extrême droite, de pression de l'extrême droite sur l'école et sur les personnels.
Effectivement, pour conclure ça, je vais juste rappeler que le titre de la réunion publique dont vous venez de parler à l'instant était quand même un peu flou. On pouvait se laisser avoir. Le titre était « Éducation à la sexualité à l'école, de la prévention à la sexualisation précoce, risques et bonnes pratiques ». Potentiellement sur le papier, on a envie d'y aller pour s'informer, on y va. Merci beaucoup Pierre de la CGT Éducation 35 pour votre éclairage sur ces associations qui œuvrent contre les programmes d'éducation sexuelle et affective censés être délivrés dans les établissements scolaires. Merci.
Merci à vous.
Merci Pierre d'avoir été avec nous sur le plateau de Canal B et merci à Nina pour la tenue de cette interview. La précarité touche toujours plus d'étudiants et étudiantes chaque année. Beaucoup se retrouvent en incapacité de faire des courses et cette année encore, des associations rennaises se mobilisent contre cette situation. Nous sommes allés à la rencontre d'Épicerie sur le campus Beaulieu qui organise des distributions gratuites de produits alimentaires et hygiéniques et vient ainsi en aide à près de 200 personnes chaque semaine.
La précarité des étudiants est un sujet de plus en plus alarmant. D'après une étude menée depuis 2020 par l'association Linky, 97% des bénéficiaires de distributions alimentaires vivent sous le seuil de pauvreté et 8 sur 10 disposent de moins de 100 euros par mois pour se nourrir et se soigner après avoir payé leurs charges. Cette année encore, les étudiants et étudiantes rennaises agissent pour garantir une aide alimentaire et hygiénique à leurs camarades les plus démunis. C'est notamment le cas d'Épifri, l'épicerie solidaire basée sur le campus Beaulieu qui organise une distribution gratuite 2 fois par semaine.
Je m'appelle Maëlle Ducrot, je suis en 2e année de licence en biologie à Beaulieu, donc à Rennes. On fait des distributions alimentaires pour tous les étudiants de Rennes, afin de lutter contre la précarité étudiante.
Inspirée par l'épicerie gratuite présente à Rennes 2, l'épicerie existe depuis 2020 à Beaulieu, dans le bâtiment B28. En suivant un long couloir au sous-sol, on trouve la salle 19 où l'association stocke et organise la distribution.
On a plusieurs produits, on essaye de répartir en catégories d'aliments. Là, c'est tout ce qui est produits secs, donc il y a des boîtes de conserve, soupe, etc. Après, c'est toujours du sec, mais tout ce qui est plutôt pâte, riz, semoule. Et ensuite, donc, on a tout ce qui est partie frais, donc les frigos. C'est souvent des yaourts, mais ça dépend vraiment de ce qu'on reçoit avant. Et du coup, la quantité varie également en fonction de nos stocks. Ensuite, on a toute une partie qui varie un peu, mais on a souvent du lait, du sucre, de l'huile, et après des produits plus ou moins plaisir en fonction de ce qu'on a, pareil. Et donc voilà, du café, des viennoiseries, des gâteaux, etc. Et c'est un produit par table à peu près tout le temps, parce que comme ça permet d'avoir un maximum de personnes. Parce que du coup, on préfère c'est que chacun ait un petit peu, que plus de monde, et voilà.
C'est principalement la banque alimentaire qui fournit Épifri chaque semaine, et l'association reçoit aussi une subvention pour d'éventuelles courses supplémentaires. En plus de la nourriture, Épifri propose des produits hygiéniques, obtenus en grande partie grâce à des collectes, ou encore de la lessive. L'association a aussi pour projet de distribuer des culottes menstruelles.
Tout ça, c'est grâce à des subventions globalement. Donc on a subvention de Rennes Métropole, de la fac, et aussi des dons. Et ça nous aide beaucoup, et des collectes aussi. Après, ça c'est plus ponctuel, donc ça va faire une ou deux distributions, mais c'est toujours ça de prix. Même si c'est des produits qui changent, donc c'est sympa pour les étudiants.
Sur les réseaux, principalement sur Instagram, l'association est particulièrement active, avec un système d'inscription aux distributions, des appels aux dons et aux bénévolats, et des bons plans sur Rennes. Le tout en français et aussi en anglais, pour les nombreux étudiants étrangers qui fréquentent Épifri.
Ils doivent prendre des créneaux, donc ils doivent réserver à chaque fois par un lien. Donc ils ont des petits tickets qu'on va scanner à chaque fois à leur entrée.
Bonsoir.
Nickel, merci.
Merci.
Bonsoir.
C'est tout le monde, merci.
L'équipe compte seulement 3 membres pour gérer l'administration, la communication, la récupération des produits et la distribution hebdomadaire. Alors heureusement, Épifri peut compter chaque semaine sur des étudiants bénévoles qui viennent s'occuper de la distribution. Louise, infirmière diplômée depuis l'année dernière, a connu Épifri au début de ses études et presque 4 ans après, continue à venir aider l'association.
Quand je suis disponible, je viens parce que j'apprécie de venir ici, pouvoir donner un coup de main. J'essaye aussi parfois de venir lors de la ramasse le mardi où la banque alimentaire arrive avec le camion et on décharge le camion et on installe après ici dans la salle. Et sinon, le mercredi pour les distributions et le jeudi, quand c'est possible.
En tout, cette épicerie solidaire accueille environ 200 étudiants et étudiantes chaque semaine.
Donc il y a mercredi et jeudi. Ce soir, il me semble, on est 130 ou 120. Je n'ai pas regardé, mais c'est à peu près ça. Et demain, entre 60 et 70 à peu près. Après, c'est que nous, on met un quota maximum de personnes. Les places sont toujours prises. Et même part très très vite. Enfin, c'est en 5 minutes, des fois, il n'y a plus de place. Donc ça montre vraiment qu'il y a besoin et que les gens comptent sur ça, quoi.
3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pierre d'avoir répondu à nos questions et merci aux bénévoles d'Epifri pour leur participation à ce reportage. Merci beaucoup à Manu Peureux, Julie Beaufils et Nina qui ont réalisé cette émission. On vous retrouve mercredi prochain à 12h15 pour une nouvelle édition de 3 en 1. Bon après-midi.